Radio Campus 88.3 FM.
C'est une légende urbaine.
Oh, ça fait du bien un peu d'air.
Hey, Radio Campus, le méridional d'Orléans.
La guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours des campagnes turques au palais de la
sécurité. De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Cela a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuites.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de cash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
Bonsoir, bonsoir et bienvenue à vous dans Un bâton rompu. Sur Radio Campus Orléans, où nous sommes, d'où nous sommes, nous vous parlons en direct, et on s'installe, on bouge les micros, tout ça. Et Radio Campus Tours également, qui nous retransmet depuis maintenant 3 ans, tous les mardis de 19 à 20h. Magazine d'info, hein, vous savez, à bâton rompu, diverses infos. Ce soir, un invité, Nicolas Darmignat. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Ben, plaisir de t'avoir, on va se tutoyer, on se connaît très bien, donc voilà.
Voilà.
Nicolas est musicien, batteur, un des meilleurs batteurs que je connaisse. Je peux commencer à serrer les pompes, tout ça ?
Oui, c'est bien, vas-y, continue.
Et en fait, pourquoi nous l'invitons ce soir ? Nicolas est un activiste des ce qu'on appelait les intermittents. Si vous connaissez cette émission depuis longtemps, en 2014, hein, tu es passé plusieurs fois, je t'avais interviewé.
C'est vrai.
Et tu as une capacité d'explication qui me plaît. Donc voilà, on va recommencer dans cette émission, on a une heure hein, pour ça. On va parler de l'histoire de l'intermittence. Et puis, ce qui se passe en ce moment, c'est que encore une fois, le gouvernement et le patronat ont décidé que vous touchez trop d'argent et voilà quoi, ils voulaient moins de subventions, c'est ça hein.
C'est ça. Donc on connaît ça par cœur, donc on va répondre comme d'habitude.
Très très bien. En studio avec moi, Victor. Bonsoir Victor.
Bonsoir Hassan. Et non, tu m'entends pas ?
Si, je t'entends bien.
D'accord. Bonsoir à toutes et à tous.
On a tout préparé avant, tu vois. Steven était avec moi aussi. Steven, bonsoir.
Bonsoir Hassan.
Pour une chronique hein, à la fin de cette émission, une chronique sur une manifestation qui a un rassemblement. Intersyndicale, comment on dit ?
Une intersyndicale.
Oui. Une intersyndicale, ouais. C'était le 13.
Le 13 octobre,
oui. Voilà, avec Daniel, vous êtes rendu, c'est pas très loin d'ici, c'était à la source.
C'est ça, ça a commencé à la source.
Un rassemblement qui a parlé non seulement d'inflation, mais aussi du centre de rétention administrative qui est juste à côté de l'université. On n'écoutera pas tout, mais on va inviter tout de suite les auditrices et auditeurs à aller voir ce que vous avez fait, un excellent travail comme d'habitude. Sur la Rédac Pop, la page de la Rédac Pop, qui est une page dédiée à vos reportages. Voilà. Alors, le titre, c'est « Il n'y avait pas assez de monde ».
Oui.
Ouais.
Attends, excuse-moi, ça. Oui, je vais répondre à ta question. C'est juste que je vais faire l'attaché de presse de Steven. Ouais. Donc, il y a une interview exclusive de Jamie Le Schlag qui se produit ce soir au Bouillon. Oui. Et dans 5 minutes, Steven peut aller l'interviewer.
Mais oui,
donc,
sais
Steven
bien.
Va nous quitter là et je réponds à ta question. Voilà. Comme ça, tu peux y aller.
Ouais. Bah, voilà. Okay.
Oui,
c'est du
tout
direct.
Oui,
okay,
à tout à l'heure.
Et on revient
absolument.
Tout à l'heure. Et donc, oui, faible mobilisation qui s'explique alors d'une part par le jour, un vendredi. Voilà, il faut avoir les moyens de poser un jour de congé pour partir faire la manifestation. Dans ces temps de disette internationale, voilà, ce n'est pas donné à tout le monde. À la source, donc c'est pas un lieu non plus de rendez-vous pour les manifestations usuelles chez les Orléanais et Orléanaises. Et puis, les étudiants qui ne peuvent pas non quitter leur télé, sinon bah, après ils n'ont plus la bourse. Enfin, voilà plusieurs raisons qui expliquent cette faible mobilisation. Et pendant que nous manifestions, c'est là que s'est déroulé aussi le drame que tout le monde connaît avec l'assassinat de l'enseignant. Et je pense que c'est pour ça que cette mobilisation qui a eu lieu, par exemple à Marseille, il y a des lycéens qui ont commencé à bloquer les établissements scolaires. Toutes les mesures qui ont été prises donc, dans le cadre Vigipirate ont mis fin donc, à toute liberté pour les lycéens de se réunir devant les établissements et même à l'intérieur des établissements pour exprimer leur mécontentement.
On écoutera dans l'émission, en tout cas, au moins un extrait d'une très belle intervention que j'ai trouvée, rime de Pôle emploi, qui résume en une phrase ce pourquoi les gens sont dans la rue. Et vous le savez, pour démarrer cette émission, il y a toujours Mourad pour sa chronique d'une dizaine de minutes. Je l'ai appelé il y a quelques heures. Alors, Mourad ? Oui, au téléphone. Bonsoir Mourad.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Hassan.
Bienvenue dans Bâton rompu pour ta chronique de début d'émission. Nous allons continuer ce mardi à parler de la situation au Proche-Orient et notamment Israël et dans la bande de Gaza avec Israël qui reçoit beaucoup de chefs d'État, beaucoup de dirigeants du monde entier qui font des déclarations. Emmanuel Macron, président français, y est depuis ce matin. Et dans sa déclaration, il était plutôt nuancé. Lui, il a dit oui à la guerre, oui, le soutien total. On ne l'a pas vraiment entendu, il demandait qu'il y ait des règles. Ce qui n'a pas été le cas ce week-end de la visite de la présidente de l'Assemblée nationale française, Yael Braun-Pivet, qui est allée en Israël et qui a continué à dire qu'elle soutenait totalement la guerre faite à Gaza.
Alors je vous invite à aller voir l'émission, je crois que c'est de France Inter le 7-9 d'hier matin, dont elle était l'invitée. Si c'était pas dans un contexte aussi particulier, je dirais que c'est quasiment comique. C'est-à-dire qu'elle est partie sur une espèce de prise de position complètement indéfendable. Et donc, quand on est dans une position indéfendable, qu'est-ce qu'on va faire ? On va contre-attaquer. Et donc, qu'est-ce qu'elle a pris comme cible ? Évidemment, puisque c'est la cible du moment, c'est la France Insoumise, en particulier Jean-Luc Mélenchon, qui avait posté une vidéo de la manifestation de soutien aux victimes de ce conflit, et évidemment en particulier puisque l'agenda le commande, des Palestiniens de Gaza qui sont sous blocus depuis plusieurs décennies maintenant et qui en plus, dont on attend l'offensive sur Gaza, on attend l'offensive terrestre, maritime, aérienne, enfin ça va être complètement délirant et que ça va évidemment impacter fortement, c'est-à-dire que ça va massacrer pour employer des termes plus précis, des populations civiles, de fait. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, depuis Israël, elle part en délégation en plus avec Meir Habib, qui est le député des Français de l'étranger de cette partie-là du globe, et qui est connu pour être un extrémiste, un extrême droitiste, pro-israélien, pro-colonie, pro-Netanyahou. Et donc elle part avec lui, ce qui est quand même un symbole, et avec Éric Ciotti, qui est quand même pas connu pour être particulièrement progressiste et amateur de la paix, notamment entre ces deux populations.
Le président du Parti des Républicains, hein, pour ceux qui ne savent pas.
Absolument, absolument. Oui, celui qui s'accommode bien des avatars, lorsqu'on ne met pas d'avatar d'ailleurs sur Twitter, puisqu'on a un 9. Il remarque plusieurs internautes. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'elle espère, avec une espèce de mou comme ça, comme elle sait faire, une espèce de mou attendrissante, qu'il faudrait qu'il y ait le moins de civils palestiniens tués, mais que le droit de se défendre d'Israël ne doit absolument pas être entravé. C'est complètement délirant. Ce qu'elle dit, en fait, c'est qu'il ne faut pas, c'est-à-dire qu'Israël a un blanc-seing pour ne pas respecter. Et quand je dis Israël, c'est pas le peuple d'Israël, soyons bien clairs. Quand on dit Israël, mais tout le monde le dit d'ailleurs, tout le monde le dit. Je veux dire, c'est une règle. Quand on dit Israël, on parle évidemment du gouvernement, des dirigeants israéliens. Quand on parle d'un soutien indéfectible à Israël, c'est qu'on soutient en fait le gouvernement israélien. Et là, ça pose un problème, puisque le gouvernement est en train de commettre des crimes de guerre et des exactions. Donc, c'est pas possible. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle maintient cette position-là, alors que, comme tu l'as dit parfaitement au départ, le Quai d'Orsay et l'Élysée sont beaucoup plus, pour le coup, nuancés.
Tout à fait.
Et rappellent qu'il existe un droit international, qu'il existe des règles, même en temps de guerre, surtout, j'ai envie de dire, en temps de guerre, pour protéger les populations civiles, ce que ne fait pas Israël. Et si tout le monde s'accorde, évidemment, à condamner les crimes du Hamas et les prises d'otages, ça ne permet pas, ça ne donne pas un chèque en blanc pour pouvoir commettre des exactions sur les populations civiles, avec cette idée, en plus, alors c'est Meir Habib, justement, le fameux, qui a proposé que les pays arabes accueillent, comme pour l'Ukraine, puisque les populations ukrainiennes civiles ont été accueillies dans les pays européens, et ben de la même manière que les pays arabes accueillent les Gazaouis. Donc, ce qui signifie deux choses. Un, que même Meir Habib, militant d'extrême droite israélienne, reconnaît qu'il y a un parallèle entre la Russie, voire même une comparaison, entre la Russie et Israël sur le mode d'attaque, c'est-à-dire que c'est un État guerrier. Et deux, il valide le fait qu'il faut déporter, je dis bien déporter, les populations, puisque déplacer des personnes sans leur assentiment, les déplacer de force, dans d'autres pays, dans d'autres contrées, ça s'appelle une déportation. Et là, donc, il s'appelle juste à ça. Et la déportation est constitutive du crime de guerre. Donc, on est dans quelque chose d'absolument tragique et qui est importé, notamment, comme tu l'as dit, par Yael Braun-Pivet, instrumentalisé, puisqu'elle a joué, y compris sur son histoire très personnelle, en disant que quand Mélenchon dit que pendant que la France manifeste pour la Palestine, elle va camper en Israël pour défendre un massacre à venir, elle a utilisé le verbe « camper » pour dire que c'était employé à dessein, sous-entendu.
Oui,
mais c'est, honnêtement, c'est dégueulasse. Et je ne suis pas de la LFI du tout. Je dis juste que c'est dégueulasse d'accuser quelqu'un d'employer le verbe « camper » alors qu'on la voit en photo devant des campements, en tenue paramilitaire, devant des campements. Donc oui, elle va camper. Enfin, et donc elle utilise ça en faisant semblant de pleurnicher devant les caméras de France Inter pour justifier le fait que tout ça, finalement, c'est de l'antisémitisme. Et ça, c'est vraiment dégueulasse. Surtout à la veille, je vous dis, de massacres que tout le monde voit arriver dans la bande de Gaza.
Et aussi à la veille d'un voyage du président de la République qui parle en notre nom. Voilà, Yael Braun-Pivet, je vois pas comment il pourrait parler en mon nom en tout cas. Et ce voyage a été critiqué, même dans la majorité, sur la forme et sur le fond. Dans la composition de la délégation, tu as rappelé les deux députés qui accompagnaient, Éric Ciotti et Meir Habib. Alors, des journalistes ont demandé à l'opposition, est-ce que vous avez été invité? Et en tout cas, notamment, j'ai noté ce que disent les socialistes. Oui, nous avons été, mais ils étaient un peu embêtés de participer à ce voyage avec justement Meir Habib, que tout le monde connaît, dont les déclarations que tu as rappelées là à l'instant. Elle a même dénié le droit d'existence des deux peuples. Hein. C'est la position de la France depuis longtemps en tout cas, l'existence de deux États côte à côte. Mais Madame Braun-Pivet, on la connaît aussi, on en avait déjà parlé dans cette émission sur comment elle gère l'hémicycle. C'est là où on va parler de Ercilia Soudé, c'est ça?
C'est une
jeune députée.
Une jeune députée LFI que j'ai eu mercredi dernier, puisqu'en fait j'ai vu passer un courrier d'une députée, non pas Renaissance, parce qu'au départ j'avais machinalement pensé que c'était Renaissance, tellement c'était amical vis-à-vis de Braun-Pivet. En fait pas du tout, c'est la même famille, c'est une républicaine qui...
elle fait partie de la commission des affaires étrangères, Ercilia Soudé, oui c'est ça.
Absolument, et qui est accessoirement... présidente du groupe d'amitié France-Palestine, et qui autrement accessoirement fait partie et est vice-présidente du groupe d'amitié France-Japon. Et une délégation devait se rendre au Japon donc ce dimanche dernier, donc avant-hier, et alors faisait partie, il y avait quatre députés, donc c'est pas une grosse délégation, quatre députés, et en fait cette députée dont je suis désolé, j'ai plus le nom, mais je vais vous le retrouver assez facilement. Oui. Cette députée en fait, a dénoncé auprès de Braun Pivet le fait que, par rapport à l'opposition qu'elle peut avoir sur Israël-Palestine, il faudrait l'interdire de voyage au Japon.
Oh là là.
Sauf que, il se trouve que cette... Donc c'est une vieille tradition française, hein, les courriers pour dire... voilà. Sauf que cette députée, Ursula Soudet, à la fois parle japonais, a suivi des cours de japonais et a vécu au Japon.
Et c'était donc la seule qui parlait japonais. C'était la seule qui parlait japonais.
Et qui connaît parfaitement les us et coutumes du Japon. Et donc c'était la seule qualifiée pour y aller. Et là, on a voulu l'interdire. D'y aller pour des raisons complètement fallacieuses. Et donc là, on rentre dans une chasse aux sorcières, en fait. On rentre dans du macartisme pur et dur, à la française, du macartisme américain, mais à la française. Et là, ça devient complètement, complètement ridicule. Je prends l'exemple d'une élue, je ne vais pas la citer, d'une élue locale sur Orléans, je vous laisse chercher, à propos toujours du fameux tweet de Jean-Luc Mélenchon, voici la France. Pendant ce temps, Madame Braun Pivet campe à Tel Aviv pour encourager le massacre, pas au nom du peuple français, point d'exclamation. Une élue répond : je rêve où il vient de mettre la présidente de l'Assemblée, la présidente de l'Assemblée nationale dans le viseur. C'est un comportement irresponsable, soutien, gna gna gna. Et à ça répond un autre obscur élu qu'on a aussi vu dans l'affaire du faux hacker de Toury, qui répond abject, irresponsable, dangereux, insupportable. Mais voilà, jusqu'où on va aller, quoi. C'est pas sérieux. Il faut. Je parlais d'hystérisation la semaine dernière. On est en plein dedans et c'est pas prêt de se calmer malheureusement. Et ça a des conséquences complètement lapidaires. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se, un peu comme à la Libération. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui, vous savez que quand les gens tondaient des femmes, ce qui est juste complètement abject, hein, parce que je veux dire, quoi qu'elles aient fait, on ne tond pas des femmes parce que c'est des femmes. Mmh. C'est une misogynie extraordinaire, mais des gens se sont empressés d'aller tondre des femmes et d'aller prendre les armes pour peut-être nettoyer quelque chose, pour faire oublier quelque chose. Mmh. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on va se jeter sur la bête, en l'occurrence LFI et Daniel Obono, pour ne pas la citer, on en parlait la semaine dernière, pour essayer de faire oublier quelques travers et quelques soutiens parfois un peu douteux.
Tu parlais tu cherchais le nom de la députée qui avait accusé Ursula Soudet d'avoir invité. Alors, la raison est celle-ci. Elle avait invité à l'Assemblée nationale Mariam Abou Daka. C'est une militante palestinienne affiliée évidemment au FPLP. Elle devait venir le 9 novembre prochain dans le cadre de la projection d'un film qui s'appelle Yala Gaza. Et la députée s'appelle Caroline Yadan, Renaissance.
Merci.
Voilà.
Merci pour cette précision. Je rappelle, pour finir là-dessus, je rappelle que l'immense Nelson Mandela et l'ANC étaient qualifiés également de terroristes en leur temps et étaient reconnus comme terroristes par bon nombre de pays occidentaux. Donc il va falloir relativiser un tout petit peu la question du FPLP notamment, qui a pu être reconnu comme terroriste à une époque. On n'est plus dans ce schéma-là du tout. Et cette femme, dont l'expulsion voulu par Darmanin a été annulé, je crois, par le Conseil d'État ou le tribunal administratif.
Le tribunal administratif, oui.
Mais voilà, donc non, c'est juste, il faut arrêter le délire et arrêter de ressortir. S'il faut ressortir toutes les casseroles sur Darmanin, on va le faire aussi. Hein, je veux dire, à un moment donné, il faut estimer, notamment ses écrits sur les Juifs, il faut estimer à un moment donné qu'il y a pu y avoir des choses de faites, de dites, à une époque, c'est pas ça qui doit conduire à aujourd'hui en 2023 avoir des positions aussi radicales sur des femmes qui plus est d'un certain âge qui viennent apporter la parole des Palestiniens de Gaza et qui viennent apporter une parole de paix et pas du tout une parole guerrière. Donc ça n'a absolument aucun sens.
Merci à toi Mourad de la liberté de ton et dans cette émission parce qu'il faut continuer et on va continuer à le faire vraiment. À mardi prochain.
Avec grand plaisir, merci à toi, Tana. Bonne émission.
1, 2, 1, 2, 3. Boogum, 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 boogum now, baby, you're casting your spell on me. I say boogum, 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 boogum now, baby, you're casting your spell on me.
look at me. When you wear your high heel boots with your hip hugger suit, it's alright, you're out of sight. And you wear that cute mini skirt with your brother's sloppy shirt. I admit it, girl, that I can't dig it. Then the ops says, fuck 'em, fuck 'em, fuck 'em, fuck 'em, fuck 'em now, baby, you're casting your spell on me. Now, baby, you're casting your spell on me. You've got me doing funny things like a clown. Just look at me. When you wear your bell bottom pants, I just stand there in a trance. I can't move. You're in the groove. Would you believe, little girl, that I'm crazy about you? Not gonna put your bed still.
Brenton Wood, chanteur musicien américain, qui a eu un grand succès à la fin des années 60, ça se situe en tout cas c'est 67 et 70. Il a eu un vide et le papy a 82 ans, je crois qu'il est rentré en studio là, il n'y a pas longtemps, et il s'apprête à envoyer quelque chose. Je me suis dit c'était le moment de le repasser dans cette émission. La chanson s'appelle, le morceau Ougum Bougum Song, ça veut rien dire, mais ça fait bouger les jambes. À bâton rompu, la suite.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Ils sont, elles sont, ils sont acteurs, actrices, régisseurs, régisseuses, musiciens, musiciennes, techniciens, techniciennes. Ce sont les intermittents et les intermittentes du spectacle qui travaillent justement par intermittence. Hein, hein, c'est bien pour ça.
Attends, c'est le principe.
Ah, c'est le principe. Hein, voilà. Et donc, voilà, comme ils travaillent par intermittence, bien, ils ont un statut précaire.
C'est ça. En gros, ça résume assez bien.
Voilà. Donc, avec notre invité Nicolas Larmignan, on va vous parler de ce qui se passe en ce moment pour les intermittents et intermittentes du spectacle. On va revenir un peu d'histoire quand même. J'aimerais bien qu'on fasse ça.
Alors, un peu d'histoire.
Le statut, 1936, je crois.
C'est ça. Alors, dans ses premières formes, c'est ça. Il y a une notion qui est importante à rappeler là-dessus. Oui. C'est qu'au départ, ça vient d'une nécessité de la part du patronat.
C'est vrai.
C'est le patronat qui a besoin, d'embaucher des musiciens flexibles. Alors pourquoi ? Parce que c'est l'apparition du cinéma. Quand on passe des films, il faut des musiciens pour accompagner les films. Or, à l'époque, tous les musiciens, ils sont permanents dans des orchestres.
Absolument.
Et donc, un patron de cinéma qui leur dit « Venez bosser 3 jours chez moi », bah non, les gars, évidemment, ils disent « Bah ça va pas, non. Je vais perdre ma place en orchestre permanent. » Donc.
D'accord.
L'idée vient de là. Au départ, c'est le patronat qui a besoin d'un peu plus de flexibilité de la part des artistes et qui dit, bon, il faut créer une compensation. Donc, on vous embauche 3 jours et puis on fait en sorte que les jours où vous n'allez pas travailler, vous soyez protégés, qu'il y ait un filet de protection.
Ça partait du moins d'un bon sentiment. C'était plutôt pas mal.
Ça partait d'un bon sentiment. Le patronat n'a pas toujours eu ce genre de sentiment par la suite.
C'est vrai. Voilà. Mais alors, le statut a évolué. Il y a eu besoin, effectivement, à un moment donné, de travailler justement sur ce statut, ne serait-ce que pour le pérenniser. Et il y a eu des rencontres paritaires, on appelle ça, c'est ça ?
C'est ça. Alors là aussi, le paritarisme a changé.
D'accord.
Au départ,
explique-nous.
Au départ, il ne faut pas oublier que l'assurance chômage était gérée par les syndicats de salariés,
c'est
uniquement.
Ça. Oui.
C'est uniquement. Ce qui était normal, puisque c'était évidemment des revenus du travail. Donc, la logique voulait que ce soit les syndicats de salariés qui gèrent l'UNEDIC. Après, évidemment, le patronat a revendiqué sa place dans les négociations. Donc là, est arrivé le paritarisme. Bon. Voilà, où là, le patronat qui est maintenant le MEDEF, hein, parce qu'il n'y a presque que lui qui est représenté au sein des patrons, lui a revendiqué sa part. Et puis là, il y a quelque chose de nouveau dans les négociations de l'assurance chômage, c'est que l'État s'invite, en plus. Donc c'est plus réellement du paritarisme, c'est du paritarisme chapeauté par l'État. Et ça change beaucoup de choses. On en reparlera à propos du chômage et à propos de l'utilisation, en tout cas des cotisations patronales et salariales.
Et dans les années 60, donc il y a ce paritarisme s'installe quand même et on met en place des annexes. C'est ça, tu nous en avais parlé en 2014, mais je crois qu'il faut revenir là-dessus. Les deux annexes, c'est 8 et...
Alors, pour les techniciens, oui. C'est 8, ouais. Et pour les artistes, c'est 10.
Et c'est quoi ces annexes?
Alors, c'est un petit peu, c'est des règles spécifiques qui vont régir le mode d'indemnisation de ces professions.
D'accord.
Alors, il existait d'autres annexes. Il y a eu l'annexe 4 pour les intérimaires. Il y en a eu tout un nombre que je ne pourrais pas citer. Voilà, mais qui correspondait à chaque fois, évidemment, à un mode d'emploi de certaines catégories de salariés. Voilà.
Les renégociations, parce qu'en ce moment, on parle de ça, hein, de ces annexes 8 et 10. Mm-hmm. Ça. Bon, en 1992, il y a eu quand même... C'était la première renégociation, c'est ça?
Voilà.
Au début des années 90. Hein.
C'est ça. Alors là, j'avoue que j'étais un petit peu jeune.
Oui.
donc j'ai moins de souvenirs de m'être investi là-dessus.
Alors,
mais
passons,
c'est ça.
Passons
c'est
tout ça. De suite à 2014, parce que ça, tu l'as vécu.
Alors, j'ai vécu 2003.
Oui, 2003.
J'ai vécu 2003. Oui. 2013, on va vivre 2023, voilà, parce que visiblement, c'est cyclique.
C'est ça, absolument.
Voilà. Alors, 2013, c'est l'attaque la plus sévère. Enfin, 2003, ça avait été une sacrée bataille, déjà. Mais 2013, c'est une grosse, grosse attaque parce que, qu'à l'époque, on nous a fait passer... Alors, c'est compliqué, ça va devenir technique. Donc, voilà.
Non, mais vas-y, c'est important.
Mais jusqu'ici, les intermittents avaient 12 mois pour réaliser un certain nombre d'heures. Hein, 507.
507, oui.
Voilà, les fameuses 507 ou 43 cachets. Voilà, à partir de 2000, que je ne me trompe pas, entre 2003 et 2013, on repasse à 10 mois et demi. Mm-hmm. Et 10 mois et demi, alors, 10 mois et demi glissants.
C'est-à-dire ?
Ça veut dire que plus on travaillait, plus la date de réexamen était repoussée. Mmh. Mais ce qui veut dire aussi qu'on ne pouvait jamais savoir à quelle période on allait recalculer nos droits.
Et là, c'était le gouvernement ou le patronat qui...
Ah là, c'était le patronat.
C'était le patronat,
ouais. Voilà.
Et en
2013, en plus, il est question de renforcer un petit peu ce système-là. Et là, il y a une grosse, grosse lutte. Et puis, il se trouve qu'on gagne cette bataille. 2013, on gagne
oui, c'est vrai.
La bataille.
Ouais, je me rappelle bien.
Puisqu'on revient au système de calcul sur 12 mois à date anniversaire.
Mais c'était sérieux, hein, 2013 et 2014, évidemment, tous les festivals. Je sais pas, Victor, t'étais trop jeune peut-être
2014, non, quand même. J'étais étudiant à la fac... à Lille, et je me rappelle du coup qu'ils avaient qui bloquaient le Théâtre du Nord. Et... Non, mais ce que j'avais trouvé assez cool en plus, c'est que les intermittents, ils ont une capacité en fait à s'approprier les luttes et à en faire quelque chose qui leur correspond, c'est-à-dire qu'ils font des trucs qui sont souvent très spectaculaires, etc. Enfin voilà, le Théâtre du Nord, ils avaient mis d'énormes banderoles partout, ils avaient fait des tags et tout, enfin c'était dans tous les sens, c'était très agréable visuellement, esthétiquement parlant, et je trouvais que c'était une grande force des intermittents du coup d'arriver à se réapproprier avec leurs propres outils du coup les luttes quoi.
Et ici vous aviez perturbé Nicolas, ce fameux festival Orléans Jazz, et il y avait vraiment c'était et vous aviez le soutien de beaucoup d'Orléanaises et d'Orléanais.
Oui, mais c'est des choses difficiles à faire parce que c'est des choses qu'on n'aime pas faire, hein. Aller bloquer un concert.
Bien sûr, évidemment.
Je me souviens de la prise de décision en assemblée générale, l'ambiance était plutôt lourde. On savait qu'il fallait le faire, etc. Mais c'est vraiment pas des choses qu'on a envie de faire. Et puis le soir même, il y avait des musiciens qui étaient sur le plateau, hein, qu'on empêchait de jouer. Hein.
Bien sûr.
C'est des choses terribles à faire, moi, je trouve.
Je me rappelle les concerts qui ont eu lieu au bout de quoi, 3-4 jours, je sais plus, où vous étiez heureux. Tous les musiciens, parmi vous, vous étiez vraiment heureux de remonter sur scène, pour ceux qui remontaient sur scène. Et vous, à l'époque, vous étiez super soudés. Vous aviez quoi comme envie? C'était, il faut qu'on arrête ça, ces renégociations
Alors, il y a plusieurs choses, mais c'est important de dire qu'effectivement... Alors, les intermittents, ils ont quelque chose de particulier dans leur mobilisation, quand même. C'est peut-être pour ça qu'ils ont réussi à sauver leur peau aussi longtemps.
Oui.
C'est que... Quand on remplit notre dossier pour l'UNEDIC tous les ans, enfin pour Pôle emploi, pardon, tous les ans, nos demandes de droits, etc., on devient très technicien de ça. Et je pense qu'on fait partie des catégories de chômeurs qui connaissent le mieux leurs droits. Ça fait de nous un peu des experts, évidemment, dans ce domaine-là. Voilà. Ce que les autres n'ont pas, je veux dire, les intérimaires, malheureusement pour eux, ils sont moins informés de leurs droits, de comment ça marche, etc. Voilà, ce qui explique aussi que, bah, qu'eux se soient fait dézinguer l'année dernière. Voilà. Donc voilà, la force de mobilisation des intermittents, elle vient aussi beaucoup de là, quoi. C'est qu'il y a une petite expertise. Voilà. Après, surtout, ce qui nous a fait bouger à chaque fois, c'est qu'à chaque fois, c'est injuste. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la façon dont on nous désigne comme privilégiés, ça, c'est fortement injuste. C'est ce qui nous avait mis en colère en 2013. C'est ce qu'on était allé expliquer à M. Groire à l'époque. Qui nous avait bien écouté.
Absolument. Et qui avait dit, je l'avais diffusé d'ailleurs ici à notre micro, qu'il était de votre côté et qui avait même, nous avons envoyé, il avait écrit, je crois, au ministère de la Culture. Alors, ce que disent vos détracteurs, enfin, ceux qui disent que c'est que, ben, on revient aux 507 heures et que pour compenser la précarité, puisqu'on en parlait au début, vous avez des intermittents plus généreuses. Donc, ne vous plaignez pas.
Alors,
répondons.
On va essayer de répondre à ça. Alors, en plus, il y a des choses un petit peu différentes maintenant. Ouais. C'est-à-dire qu'on est la dernière catégorie de salariés du privé à avoir des cotisations salariales. Il ne faut pas oublier que tout le reste du privé, maintenant, il n'y a plus que les patrons qui cotisent à l'assurance chômage via une partie de la CSG. Enfin, c'est assez compliqué, mais voilà. On est les derniers qui mettons une part salariale dans les caisses de l'UNEDIC. Et on y tient. Moi, je trouve que c'est hyper important. Et moi, je suis très content de mettre une part de mon salaire dans les caisses de l'UNEDIC pour tout le monde. Il ne faut pas oublier qu'on met tous de l'argent dans la même caisse. Voilà. On ne le met pas pour nous, on le met pour tout le monde. Après, on cotise un petit peu plus que les autres. C'est-à-dire que les salariés du privé, c'est à peu près 4,03%, si je me souviens bien,
c'est
du
ça,
brut.
C'est ça.
Voilà, nous, on a 4,03% plus de 40. Je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. J'ai plein de chiffres sous les yeux, donc bon, ouais, à peu près.
Je veux vérifier, mais c'est ça.
Voilà. Donc, on cotise un petit peu plus. Et oui, c'est vrai, nous avons un mode d'indemnisation qui est avantageux. Alors, avantageux, attention. C'est pas parce que tout a été bombardé autour et que tous les autres chômeurs se sont fait fusiller, qu'on a détruit ce beau système de l'assurance chômage, que là, parce qu'il reste une petite maison qui est juste normale, qu'il faut la détruire. Et ouais, c'est exactement ce que cherche à faire le MEDEF et ce que cherche à faire le gouvernement.
Oui.
Ça veut dire, en fait, c'est tout ce qui reste de normal dans l'assurance chômage. Et là, on nous pointe du doigt en disant, ah ben ouais, mais regardez, eux, c'est normal. Bah, c'est des privilégiés, il faut les abattre.
Et c'est exactement ce qui arrive en ce moment. Donc, 2023, de nouvelles négociations. D'abord, le gouvernement qui fait ce qu'on appelle une lettre de cadrage en disant « Attention, il y a trop d'argent qui part là-dedans ». Et là, récemment, c'est le MEDEF qui... Bah, eux, ils annoncent carrément les chiffres. Il faut baisser donc cette subvention. Je ne sais pas comment on peut dire ça.
Alors, en fait, oui, effectivement, la lettre de cadrage du gouvernement, elle est très claire. Elle impose surtout le cadre budgétaire.
C'est ça.
Voilà, il faut faire tant d'économies.
Voilà.
Alors après, on pourra parler de où vont aller ces économies. Sachant qu'ils ont besoin de beaucoup d'argent, là, le gouvernement, pour un gros projet.
C'est ça.
Voilà. Et là, il cadre la discussion en disant, bah, voilà, il va falloir faire tant d'économies. Voilà. Après, du côté de l'Interpro, donc, c'est-à-dire tous les syndicats réunis pour discuter de tout ça, il y a une autre lettre de cadrage. Donc là, le MEDEF a voulu en imposer une au départ qui demandait 40% d'économies sur les seuls intermittents du spectacle.
40%?
Oui.
40%.
Oh la vache.
Voilà, alors, donc là, bon, là évidemment, les autres syndicats se sont étranglés. Refus catégorique de la CGT et de FO.
C'est ça. Les autres ont signé ou pas, CFDT?
Alors, la CFDT a signé la deuxième lettre de cadrage.
D'accord.
Qui, elle, revient à 15%. Voilà. Alors, tout en disant que c'était pour permettre de débattre et de pas bloquer le truc tout de suite, on se méfie de la CFDT qui nous a déjà fait le coup.
Oui.
Bon, je veux bien les croire que c'est pour discuter et attendons de voir. Voilà. Donc, effectivement, la lettre de cadrage du MEDEF est ultra agressive. Voilà. Et puis, surtout, elle va faire... Attention, elle demande à une catégorie de salariés
chômeurs, parce que quand même, nous sommes globalement chômeurs, les intermittents de spectacle,
hein,
de faire un effort financier pour, soi-disant, sauver les comptes de l'UNEDIC. L'UNEDIC est excédentaire.
Elle est, c'est exactement ce que j'allais te dire, évidemment.
Voilà, est excédentaire, alors je crois, de 4 milliards
oui, à peu près, ouais, c'est ça.
En 2022, et avec des prévisions de l'UNEDIC qui prévoient 8 milliards d'excédents en 2025.
Mmh. Ah oui, donc ce n'est pas des petits excédents en plus.
Ah non, non, mais non, c'est, ils ont 4,4 milliards d'euros d'excédents.
Non, non,
c'est vrai.
Les comptes de l'UNEDIC vont très bien. Mmh. Quant à l'endettement, puisque ça, évidemment, on sait que quand on parle des comptes, après, on va tout de suite nous parler d'endettement et nous dire « Ah oui, mais attention, il faut rembourser la dette ». Le niveau d'endettement, là, de l'UNEDIC est en train de régresser. Ça va, on va rembourser la dette. Il n'y a pas de problème. C'est le même discours que pour les retraites, hein, finalement. Hein. Voilà. Hein. C'est « La situation est catastrophique ». Eh bien non, il suffit d'aller regarder. C'est sur le site de l'UNEDIC. Hein. Allez voir, ça parle tout seul.
Sauf qu'il y a eu des choses qui ont été enlevées brutalement, notamment je crois que c'est l'annexe 4, c'est les saisonniers.
Les intérimaires.
Il y en a qui ont connu des situations tragiques.
Ah mais là, la dernière réforme de l'assurance chômage, c'est une boucherie sociale.
Mais
quoi.
Oui, c'est ça.
Ils y sont allés au bazooka, quoi. Enfin, et attention, en pleine crise du Covid, en plus.
Mais c'est ça, mais c'est exactement ça que j'ai...
C'est complètement hallucinant et c'est extrêmement agressif.
Tu l'expliques comment, ça? En tant que citoyen, vas-y, en tant que citoyen. Là.
En tant que citoyen, bah, je veux dire, là on ne se gêne plus pour mener les politiques ultralibérales les plus nocives.
Il y a eu des tentatives de suicide, je dis ça à tout le monde, il y a eu des suicides même. C'est, vraiment, ils y sont allés, mais c'était annoncé du jour au lendemain, enfin voilà quoi. Et donc voilà. Et alors, vous avez décidé, certains de vous, en tout cas FO et la CGT, de ne pas vous laisser faire ce coup-ci. Le 13 octobre, un peu partout en France, et même à Orléans, hein, il y a eu un rassemblement.
Oui, oui,
voilà,
oui.
Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous allez continuer, forcément?
Alors, on va continuer, sachant que dans la lettre de cadrage, évidemment, il y a quelque chose qui nous ennuie beaucoup, c'est le calendrier.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que là, des négociations de l'assurance chômage qui doivent se tenir en 6 semaines chrono, en gros, c'est à peu près ça. C'est un peu compliqué de construire une mobilisation, sachant qu'en plus, le terme de ces négociations arrive en pleine vacances scolaires.
Ah oui, bah oui.
Voilà.
Oui. Mais à Orléans, vous êtes fort quand même. On se rappelle, hein, Daniel, vous avez occupé le théâtre, et c'était vraiment un lieu, un moment très intéressant, pour nous en tout cas en radio, on est venu vous voir. Est-ce que quelque chose comme ça se prépare? Tu ne vas pas le dire forcément, à la radio.
Alors, je ne vais pas le dire. Et puis
on est écouté, on est assez...
voilà. Si, on a un plan.
Bon, ça reste entre nous. Hein.
Oui, c'est ça.
Voilà. Non, mais là, la mobilisation est dure à construire. Parce que, parce qu'il y a vraiment une partie de la profession qui n'était pas au courant. C'est-à-dire qui savait que l'assurance chômage allait être négociée, mais qui pensait qu'on était à l'abri. Alors, il y a un petit truc quand même. Notre cher Manuel Valls... Mmh.
C'était lui en 2013.
En 2013. Et après, en 2016, on obtient la sanctuarisation des annexes 8 et 10.
Mais oui.
Et là, il y a plein de gens qui, dans la profession, se sont dit « C'est bon, on est peinards à vie.
Ouais. »
Ben oui, mais là, c'est un piège absolu.
Promesse de Manuel Valls, on dit d'entendre.
Alors, il a tenu ses promesses. Ouais, et les gouvernements continuent à tenir la promesse de Manuel Valls.
Ouais.
Mais en gros, on vous dit, on va conserver votre jolie boîte.
Oui.
Par contre, ce qu'il y aura dedans...
Voilà, c'est ça. Ah ouais, ben oui, c'est ça.
Et donc, en fait, on est en train de dire, vous voyez, les annexes 8 et 10, elles sont toujours là. On tient nos promesses. Par contre, on est en train de les vider de leur substance. Voilà. Et là, du coup, c'est vrai que pour remobiliser les gens et dire « Attention, là, il y a un vrai, vrai, vrai danger », c'est un peu compliqué. Alors, ça va peut-être venir, peut-être après coup, comme ça s'est passé en 2013.
En tout cas, on s'est dit avec Daniel, hein, on viendra à votre rencontre, les uns, les autres, les unes, les autres, des intermittents, pour parler sur cette antenne, en tout cas Radio Campus, et Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, de la situation que vous vivez. Et hein, on fera ça volontiers, Daniel.
Oui, ouais. Oui, alors, je sais pas si juste en une minute, quoi, mais j'ai l'impression que c'est la valeur travail. Quelle valeur donne-t-on au travail? J'ai l'impression que de plus en plus, on a peur justement d'être au chômage, parce que c'est la priorité, c'est de remplir le frigo, de payer le loyer, et que ces valeurs, j'allais dire, donc d'altérité, d'intégration sociale que permettent le travail, hein, de vrai pour le bien commun, de vrai pour un projet collectif. Beaucoup de personnes, de jeunes notamment, se posent cette question et n'ont pas trop ont envie de travailler dans ces circonstances. Et donc, ce qui est sous-entendu avec ces réformes, c'est que, en fait, à quoi ça sert votre travail ? Ce n'est pas du travail. Vous êtes des artistes. Vous faites ça quand vous aurez du temps libre. Allez travailler comme les autres. Ramenez de la valeur. Travail, mais tel que l'entend le gouvernement. Ramenez-nous de l'argent. Ramenez-nous des cotisations pour l'UNEDIC qui sera excédentaire. Et il y a un vrai débat en filigrane de société, en fond, qui est posé. Avec une ambiguïté donc, de ce que on pourrait parler d'un point de vue philosophique sur la valeur travail, et puis après ce que le libéralisme en fait, donc de la valeur financière, capitalisable et d'exploitation de l'individu qui représente justement une manière de faire fructifier le travail des uns des unes et des autres, des travailleurs.
Oui, mais exactement, je pense qu'on est complètement là-dedans. Mmh. Et puis on en parlait hors antenne un petit peu avant, hein, et puis j'allais y venir. Il y a le grand projet de France Travail. Mmh. Moi, je trouve que ce mot, il fait peur.
Oui, hein. Oui, hein. Un peu. Hein.
Voilà, un petit peu avec effectivement, il y a tout ça dedans. Mmh. Ça veut dire finalement, vous n'êtes plus qu'une force de travail mise à disposition. Mmh. Et si vous ne vous pliez pas à ça, la sanction tombera. Mmh. Dire, les projets de France Travail, hein, c'est... alors France Travail, je peux peut-être expliquer
oui,
rapidement.
Absolument, oui.
Va réunir Pôle emploi, va gérer maintenant... Enfin, va gérer le RSA, ce qui n'était pas le cas pour l'instant. C'était les départements qui géraient le RSA. Et va devenir une espèce de grosse machine... Alors, je vais y aller franco, hein, à une grosse machine à coercition contre les chômeurs.
Ah bah oui.
Et avec cette idée-là, effectivement, qui est que votre travail n'est pas rentable, il n'est pas immédiatement valorisable en termes pécuniers, ça n'intéresse personne, et surtout, vous ne serez protégé de rien. Mmh. Voilà, ce qui est prendre, en fait, l'assurance chômage totalement à l'inverse de sa philosophie de départ. Ouais. Mmh.
En tout cas, tu en parleras tout à l'heure, hein, de cette manifestation, Steven.
Ouais.
Juste avant, on va passer un peu de musique, parce que je disais que Nicolas Larminia était musicien, un des meilleurs batteurs que je connaisse. Et puis on parle un
ça
peu
suffit,
de...
Ouais,
tu continues à travailler un peu là, quand même.
Oui.
Tu n'attends pas forcément l'intermittence. Donc, voilà, un peu de musique, et je crois que tu es dessus, je vois. Il me semble, hein. Écoute ça, ça te rappelle quelque chose, ouais.
Oui.
C'est sublime. Écoutez ça. On en parle après. Ça. Mais bon, voilà, on est pris par le temps. Allez écouter cet album qui s'appelle Veridub, c'est Baptiste Dubreuil, hein, qui vous réunit. Alors, c'était quoi l'idée? Parce que j'ai jamais réussi à en parler avec Baptiste. Vous êtes différents. Bon, la batterie, on te reconnaît. Il y a DJ Need.
DJ Need.
DJ Need au scratch. Il y a
David Sevestre au sax.
David Sevestre au sax, évidemment.
Et mon vieux compère Stéphane Decolli à la basse.
Absolument. Et je disais donc, tu continues à travailler. Avec Stéphane, tu étais, il y a pas longtemps, tu jouais à Orléans.
Voilà, exactement, au Jazz Club qui vient d'ouvrir.
Il est beau, il faut que j'y aille.
Ah bah, il faut y aller.
Oui, et tu joues quand?
Je rejoue en décembre au Jazz Club.
Au Jazz,
Toujours avec Baptiste et avec David Sevestre.
Eh bon, on va y aller.
Dans quelle rue?
Ah oui, c'est la...
Rue du Colombier.
Du Colombier, à Orléans. Et non, vraiment, vraiment. Et puis tu as fait plein de groupes, hein, Orléans.
Oui, toujours.
Orléans et Tours, vous êtes les meilleurs musiciens de jazz de France et du monde.
On est bien d'accord.
Ben voilà.
Tu sais que j'ai appris que Tours était la ville où il y avait le plus grand pourcentage de musiciens par rapport au nombre d'habitants.
Mais oui, je sais. Ça,
parce qu'il y a, du coup, il y a Jazz à Tours, il y a l'école de musique actuelle, il y a le conservatoire. Et en fait, tout ça, ça fait une effervescence. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, Tours, c'est... C'est quand même le goût.
Mais carrément, je vais désannoncer quand même ce morceau qui s'appelle Akaman, a.k.a. Man, Feridub, l'album, sorti en février dernier. Et vous l'entendez souvent sur Radio Campus parce qu'on adore ça ici. 13 octobre dernier, c'est un vendredi, c'est ça?
Oui.
Ouvre ta gueule! Sors dans la rue! Casse tout! Non, casse pas tout! Ouvre ta gueule! Manifestants, ouvrez vos gueules! Ah, ça, j'ai adoré!
Ouais, non,
il y avait ça.
C'était magique, il y a eu plein de slogans qui ont été chantés comme ça, devant le CRA aussi, il y en a eu pas mal. Darmanin, ferme ta gueule, Macron, ferme ta gueule. Ils y sont tous passés!
Pas beaucoup de monde, mais en tout cas, il y avait des. Voilà, il y avait du. Pourquoi ils étaient sortis, ils vous ont expliqué ça. Vous retrouverez ça, mes auditeurs, sur la page Redac Pop. Mais pour ce soir, Steven a préparé un petit papier, une chronique.
Un petit décryptage.
Voilà, allons-y.
Alors, compliqué de choisir un sujet de chronique avec toute l'actu. Hein, l'attaque à Arras, le conflit israélo-palestinien avec Israël qui joue à Angry Birds et IRL sur la bande de Gaza, les hôpitaux qui craquent, la loi France Travail, la loi Asile Migration, les ministres empêtrés dans toutes les affaires, les amalgames entre étrangers et terrorisme, entre extrême droite et gauche parlementaire, le discours de l'extrême droite et de la droite extrême, l'écologie à la française et la gauche qu'on souhaite voir morte. Mais littéralement, hein, y en a qui ont appelé à éliminer physiquement les membres de la NUPES. Hein. Oui. Tout ça pour dire que j'ai pas une semaine pour tout vous raconter, hein, donc on va se concentrer sur la manif du 13 octobre. Après, j'ai l'avantage de ne pas être connu, donc mon avis n'est pas vital. Hein. Fais gaffe à ça.
Mais si.
Avec la notoriété que tu as, Hassan, équivalente à celle de Mbappé et d'Omar Sy, ton avis de noir de journaliste est vital pour la résolution d'un conflit vieux de plus de plusieurs siècles. Bref.
Comment ça, je suis noir, moi? Hein? On m'aurait menti.
Oh, reveal. Revenons-en à la manif. Eux, ils se sont dit, tant qu'à gueuler, autant faire un tir groupé. N'empêche, c'est malin, hein, parce que s'ils devaient faire une manif pour chaque problème, bah, ils seraient tout le temps dehors, en fait. Ça donnerait un... Oh chérie, t'as vu le nombre de sans-abri? Mais non, c'est pas des sans-abri, c'est des manifestants. Ah ok, difficile de distinguer, hein. Ils sont pauvres, ils mendient le droit d'exister, ils parlent fort et personne les écoute. D'ailleurs, vous avez vu le nombre de sans-abri à Orléans? Avec la préparation des JO et le nettoyage de Paris, on nous envoie tous les sans-abri. Oh, ça suffit, hein, on va pas héberger toute la misère du monde. Hein. Évidemment, c'est une blague, hein, puisqu'un SDF, ça dort dehors. Double vanne. Mais nous sommes, mais c'est nos SDF, hein, qui vont être furax. Hein. Bah ouais, parce que quand un Parisien il débarque dans ta ville, le prix de l'immobilier il monte. On voit déjà nos SDF dire depuis que les clochards de Paris ont débarqué, je dois acheter mon carton deux fois plus cher. On aura peut-être Stéphane Plaza, le dégueulasse, hein, qui à Orléans pour reloger ce beau monde. Sauf s'il se fait dégager. Ouais, non, mais c'est bon, laissez-moi rêver aussi. Bon, j'en étais où, moi? Ah oui, la manif. Beaucoup de sujets abordés. D'abord, le centre de rétention administrative. Hein, le CRA d'Olivier ouvrira quoi qu'il en coûte, hein, encore affirmé par le chef des 8 sur 20. Et les récents événements instrumentalisés par le gouvernement alimentent des amalgames entre sans-papiers et terrorisme. À ce niveau, c'est même plus un boulevard. Hein. Macron, il attend Le Pen sous le bureau de l'Elysée, la bouche grande ouverte. Aujourd'hui, les fachos, ils sont tellement décomplexés qu'ils se permettent ouvertement de menacer les associations de défense des droits humains. C'est bizarre, j'ai pas entendu le gouvernement sur cette question. Bon, ça va venir, hein, les associations vont quand même être protégées par le gouvernement. Non ? Non. Sujet suivant. La manif mettait aussi en avant la crise du système éducatif, hein, mais c'est sans compter sur l'intervention de Emmanuel Le Fourbe, hein, qui esquive les questions avec des attaques racistes et sexistes. Hein. Tant qu'on est sur le sujet du « je me fous ouvertement de votre gueule, bande de cons, et c'est moi qui ai raison, vous, vous êtes tous des pauvres sans cervelle », on peut parler du plan pour l'environnement de sa sainteté Macron. Il nous promet une écologie de progrès compatible avec notre objectif de réindustrialisation et de plein emploi.
Je suis sûr qu'il a dit ça en plus.
Il l'a dit, hein. Bah ouais, c'est bah, pas moi.
Évidemment, je suis sûr qu'il a dit. Ouais.
Bon, au moins, ça a le mérite. Ça a un seul mérite, c'est qu'on sait qu'il va nous la mettre à l'envers. Hein. son idée, en somme, c'est de tout changer sans rien changer. Oh, j'en ai un autre. Parler sérieusement en prenant les gens pour des cons. Ou incarner la justice en étant un criminel. Ou encore condamner les violeurs alors qu'on en est un. Pardon, je me recentre un petit peu quand même.
Tu penses à qui là? Personne.
Je vous laisse imaginer. Macron, il est passé de la fin de l'abondance à la sobriété mesurée. Mais la sobriété doit être accompagnée par un changement structurel et culturel plus large. Le GIEC affirme que les personnes les plus riches ont un potentiel important de réduction de leurs émissions tout en conservant un niveau de vie décent. Après, je me demande c'est quoi la décence pour un riche, hein. Ce qui serait décent, ce serait peut-être de ne pas capter autant de richesses, surtout quand tu vois de plus en plus de personnes à la rue. En plus, je crois que Macron, la décence, il se torche le matin avec. Mais bon. Une étude du Parlement européen a montré qu'un impôt de 0,5% d'un impôt sur les 0,5% des personnes les plus riches pourrait rapporter plus de 200 milliards d'euros par an. En France, cet impôt il permettrait d'augmenter les dépenses d'éducation de 35% ou de santé de 18% ou encore de couvrir 3/4 des dépenses prévues pour la planification écologique. Le rapport sur les inégalités mondiales de 2022 énonce que les politiques climatiques devraient se concentrer sur les pollueurs aisés. Or, jusqu'alors, elles ont pesé sur les populations à faible ou moyen revenu, sans faire évoluer les habitudes de consommation des plus fortunés. Pour en finir avec la manif, hein, le cortège a fini sa course devant le CHU d'Orléans et les médecins ont pu prendre la parole sur leurs conditions de travail. Une privatisation toujours plus grande de la santé rendant l'accès aux soins de plus en plus difficile pour les populations les plus précaires. Alors que nos dirigeants prônent l'apartheid social et racial, hein, la santé se dégrade, des unités médicales entières ferment et des gens meurent. Et la seule explication avancée, hein, bah, c'est qu'il faut aller bosser. Hein, bah, ça, c'est pour vous, les mecs du RSA, là. Bouh, les assistés, hein. Alors maintenant, vous allez reprendre goût au travail en faisant un travail de merde sans être payé. Je viens de réaliser un truc. Je voudrais m'excuser auprès de la France pour les avoir accusés de ne pas assumer leur passé esclavagiste. Parce que là, on a clairement une preuve qui renoue avec, en fait. Cette manifestation, bien qu'éclipsée par les questions de terrorisme, reste un moment important. Un moment pour rappeler que personne n'est illégal, que toute vie compte et que chacune de ces vies a le droit à un niveau de vie décent. On ne peut pas se satisfaire d'un monde où les riches exploitent toujours plus au détriment des populations les plus faibles. On ne peut pas se satisfaire d'un monde soumis aux diktats des caprices bourgeois. Parce que rappelez-vous que le capitalisme poussé à l'extrême, c'est le fascisme. Et l'histoire a démontré que les fachos ne sont pas et ne seront jamais une expérience à renouveler. Merci de m'avoir écouté.
Mur par mur, pierre par pierre, nous détruirons le CRA, le CRA, le centre de rétention, qui est en train d'être construit à côté de l'université. Oui, allez écouter les reportages, enfin les interviews que vous avez pu faire. J'ai retenu cette interview-là de Rim Chouchon, je crois. Elle est de Sud Emploi. Elle travaille donc à Pôle Emploi et elle sait de l'intérieur ce qui se passe, notamment pour France Travail. C'est ce qu'elle t'a dit, Daniel. Mmh. Allons-y. Ah non, je ne l'ai pas encore.
Une politique de moins de 10 ans qui détruit nos droits tous les jours, notamment.
On va remettre au début, comme disent Raidon, pull up selecta. On va remettre ça au début. Voilà, rime.
Aujourd'hui, la politique qui nous a imposée, qui est une politique de moins de 10 ans qui détruit nos droits tous les jours, notamment, moi je peux vous parler de Pôle emploi, puisque j'y travaille, avec la création de France Travail qui va imposer 15 20 heures d'activité aux bénéficiaires du RSA en contrepartie du versement de leur allocation, alors que le RSA, on est vraiment sur une indemnité de survie, on est à environ 600 euros. Ça devient une logique presque d'esclavagisme où tout le monde doit travailler, créer de la richesse pour en continuer à engraisser les actionnaires, les capitalistes. Et cette politique-là, on n'en veut pas. On veut revenir à une dimension humaine, de respect de nos droits et dire que les travailleurs, les travailleuses, c'est nous qui créons cette richesse et sans nous, rien n'est possible en fait.
Implacable. Mmh. Hein, voilà. Et il faut le dire et le redire. Et comme on arrive à la fin de l'émission, chers amis, auditeurs, auditrices, étudiants, les étudiants surtout. J'aimerais bien que vous soyez plus nombreux dans les manifestations. Ceux qui sont venus vous ont dit des choses essentielles également. Parce que, voilà. Et il faudrait le faire plus souvent parce que, effectivement, si on ne crie pas, ils ne nous entendent pas, en fait. Hein. Merci à toi. Nicolas
Larivière. Merci beaucoup pour l'invitation.
Vraiment. Et je te dis, on reviendra vers toi parce que quand il commence, il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas tant que vous ne bloquez pas tout et que. Comme pour tout, en fait.
Bon, on va faire ce qu'on peut.
Ben voilà. Et nous, on sera là aussi pour vous tendre le micro. Victor, merci. Steven.
Merci à toi, Hassan.
Daniel.
Merci, Hassan.
Daniel, alors, Daniel, les prochaines émissions, est-ce qu'il y a des choses à annoncer sur l'après-midi? Il y a les. Vas-y.
Il y a tellement de choses. Enfin, je sais pas. Alors, tu parles des ateliers ou concernant la rédac pop? Le foyer d'accueil médicalisé, on a repris les ateliers. Là. Cet après-midi, alors non, s'il y a un événement sur lequel on sera présent, c'est une émission qu'on est en train de préparer. C'est donc le foudroyage de la T17, ce dimanche 29 absolument. Octobre à 11h. Ouais. On a réussi à trouver un lieu assez près justement pour capter des photos, des vidéos et prendre du son. Je ferai une captation directe de l'événement, une captation sur les lieux de la chute de cette T17. Et on prépare une émission pour janvier avec Zotelli, où on va inviter, enfin il ne le sait pas encore s'il nous écoute, puisqu'apparemment il nous écoute, Jean-Pierre Sueur, ancien maire d'Orléans. Oui. On a invité aussi, on aimerait bien avoir le bailleur de Pierre et Lumière, et puis une autre personne que j'ai rencontrée. Enfin bref, tout ça pour vous parler de l'histoire de cette T17, du progrès social qu'elle a représenté en son temps, et puis justement du déclin de cette architecture à la française des années 80-90, de ces grands ensembles.
En tout cas, moi, ça me fait drôle. J'ai vécu longtemps à côté.
Voilà. On va essayer de comprendre justement pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le plan Henri II en vient à détruire de telles tours et surtout, qu'est-ce qui est proposé à la place?
Mais c'est ça,
quel avenir pour l'urbanisation, sachant que des tours comme ça fait moins de terre prise sur le vivant, ça permet de loger plus de personnes dans moins de mètres carrés, mais on s'aperçoit que ce genre de logement en fait ne correspond pas à un habitat social viable et qu'il faudrait en même temps à la fois limiter notre expansion sur la surface de terre disponible, mais vous voyez, il y a des vrais enjeux, des complexes et des paradoxes parmi les nombreux qu'on a affrontés aussi, parce que tout ça en fait c'est lié au pétrole, mon cher Hassan. Et oui, parce que on part du principe que les gens peuvent se déplacer pour aller dans leur lieu de vie, et entre leur lieu de vie et leur lieu de travail, on peut construire des grands ensembles en métropole, dans les banlieues, dans les quartiers. Mmh. Et puis ça, avec l'avenir justement qui nous attend de réchauffement, concernant le contexte du réchauffement climatique. Vous êtes au courant, hein?
Ça existe, ça?
Ce mois d'octobre particulièrement chaud. Je vous l'explique. Voilà. Donc c'est en lien avec le pétrole, pétrole et béton. Deux choses dont il va falloir se débarrasser dans l'avenir.
Oh là oui, mais bon.
Et on en fera donc une émission en janvier avec Zotelli.
On sera à l'écoute. Et puis alors, si vous avez le temps, je crois que c'est dimanche. Moi, je ne serai pas là. Je croyais pouvoir être là, mais vous me ferez des photos, vous filmez.
Mais bien sûr. Et puis j'ai oublié la classe média, l'option média, avec au collège Jean Rostand. On était au Loire Art Show la semaine dernière.
Bien sûr, oui.
Pas mal de choses à voir avec ces apprentis journalistes reporters, qui vont vous proposer pas mal de sujets. Et ils sont top, les jeunes.
Bon. Dans la suite des programmes sur nos deux radios préférées, Raidon, ils sont là en train de se préparer. Il y a Monsieur Guiding Star. C'est une star, justement. Ma star. Voilà. Du reggae, du bon reggae pendant 2 heures. Et sur Radio Campus, tour du jazz à partir de 21h. Restez fidèles à cette radio là. On va se quitter en musique avec un peu de reggae. Tiens, allez, voilà, j'ai décidé ça. Steel Pulse.
Yes.
L'album True Democracy en 81, je crois. Superbe. Et ce morceau-ci, Your House. Passez une belle semaine. Et revenez mardi prochain. Ciao, ciao.
T'as plus un expert qui est passé à...